Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Tout en moi, absolument tout, est de l'imagination. En 1957, pour l'émission Monsieur Mon Passé, Louise de Villemorin avait raconté à André Parino sa jeunesse, ses amours, ses livres, et prononcé cette jolie phrase qui peut-être à elle seule résume le personnage. Dans le premier volet de cette série d'entretiens, elle racontait les grands héros de son enfance, sa mère, son père, sa gouvernante allemande, et puis Lily. Lily, cette poupée de bois et de porcelaine qui fut l'une des grandes joies et l'un des grands malheurs de sa jeune existence. Le tout raconté avec l'humour et le panache de Louise de Villemorin dans cette émission diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 23 septembre 1957.
Monsieur mon passé, voulez-vous passer ? J'ai comme une envie d'oublier ma vie. Si j'avais à faire ma vie à l'envers, c'est vous mon passé qui me verriez repasser.
La radiodiffusion télévision française présente une émission d'André Parino, Monsieur mon passé, avec Louise de Villemorin. Assistant Georges Arnal, réalisation Jean-Jacques Vierne.
Je pense, Louise, que comme Léo Ferré nous y invite et comme ce parc de Verrières où nous sommes maintenant installés vous le demande, car ce parc appartient à votre famille depuis 150 ans, nous pourrions essayer de remonter dans votre passé pour comprendre la petite fille, la jeune femme, la femme que vous avez été. Quel est votre plus lointain souvenir d'enfance? À quoi se rattache-t-il?
Le premier de tous, c'est au pantalon à carreaux de mon grand-père maternel. Et ce grand-père, je l'ai très très peu connu, puisque je devais avoir quelque chose comme 3 ans et demi quand il est mort. Alors c'est un souvenir qui est plutôt, à vrai dire, une vision. Mais en tout cas, j'étais petite, puisque j'avais le nez à la hauteur des carreaux de son pantalon. Il était dans le Charolais, un château qui s'appelle Audour, qui est près d'un village qui s'appelle Dompierre-les-Ors. Et moi, j'étais la filleule de ce grand-père dont je n'ai absolument aucun souvenir, sauf qu'il me racontait l'histoire d'un marchand de robinets qui vendait des trompettes et d'un marchand de trompettes qui vendait des robinets. Très souvent dans ma vie, je me suis dit, peut-être que quelqu'un connaîtrait cette histoire, qui pour moi n'en est pas une. C'est pour ça qu'il est mort. Et alors ça, je me rappelle aussi très bien ma mère pleurant et nous envoyant chez ma grand-mère qui habitait à l'étage supérieur pour chercher des mouchoirs.
Comment vous apparaissait, par exemple, votre mère?
C'était une personne qui vivait pour des choses qui n'existent pas du tout pour moi. Elle croyait beaucoup aux situations de famille, aux naissances, aux bons et mauvais mariages. Elle était une personne très belle, très connue pour sa beauté, qui voyait surtout, d'une part, les gens du milieu de mon père, c'est-à-dire plutôt des gens des académies d'agriculture et des génétistes, et d'autre part, des hommes politiques, des ambassadeurs, des personnes qui occupaient des situations assez importantes, dont certains nous avons connu toute notre vie, justement comme Alexis Léger.
Votre mère avait donc une vie mondaine assez intense et riche. Est-ce que vous l'aimiez ou est-ce que vous la détestiez?
J'aimais beaucoup ma mère. Je ne sais pas si elle m'a véritablement aimée autant que je l'ai aimée. Elle m'épatait énormément, parce qu'elle avait énormément d'aplomb, elle avait visité des quantités de pays, mon père et elle avaient été partout à une époque où le voyage était moins fréquent que maintenant. Alors ils avaient été au Japon, au Siam. Nous nous trouvions quelquefois avec elle quand elle le racontait à Monsieur Pinlevé ou à des personnages comme ça. Alors nous écoutions toutes nos oreilles. D'abord elle racontait très bien, de façon très brillante. Et comme nous voyions que lui ça l'intéressait, et ben ça nous intéressait d'autant plus et nous tirions une certaine fierté de ça, de l'intérêt qu'elle suscitait. Moi, je l'aimais, je l'admirais. Mais au fond, moi, elle me gobait qu'à moitié.
Pourquoi?
Je sais pas, j'étais pas du tout son genre. D'abord, j'étais malade. Alors, c'était aussi un temps où, dans les familles, la santé comptait énormément. On était plus ou moins gênés d'avoir une fille boitant légèrement ou dans le plâtre ou ayant quelques maladies mystérieuses.
qui effrayaient les autres familles. Et comme les parents pensaient toujours que leurs filles étaient des filles à marier, alors je crois que mon état de santé inquiétait beaucoup. On se disait, celle-là, elle va nous rester sur les bras, elle ne se mariera jamais. Alors, ça, ils ne voyaient pas ça d'un bon oeil.
Et votre père ?
Mon père, c'était une merveille. C'était une merveille. Voilà, c'était un homme pour lequel nous avions la plus grande affection. C'était lui tout à fait un savant. Un homme qui a été un des premiers génétistes de son temps et un des plus grands botanistes. Avec ça, très généreux, très bon, aimant la vie. Et très grand admirateur des jolies femmes. Il est mort tout à fait jeune puisqu'il avait 45 ans. Mais je suis sûre qu'il a tout aimé de ce qu'il a choisi. C'est aussi un homme qui savait choisir. Hein.
Quand vous parlez de choix de jolies femmes, Louise, est-ce que vous avez senti, par exemple, que votre père avait, pour les femmes en général, un goût extrêmement varié? Et est-ce que la petite fille que vous étiez a souffert, par exemple, du fait que votre père n'accordait pas à votre mère la fidélité qu'une petite fille imagine volontiers qu'on doit accorder à sa mère?
Eh ben non. Attendez, j'allume une cigarette. Non. Parce que d'abord, vous savez, jamais notre père ne nous a donné la moindre idée qu'il pût admirer quelqu'un d'autre, première chose. Secondement, je crois que ça nous aurait été assez égal. Au fond, je n'ai pas énormément changé de mentalité. Je ne m'intéresse pas au rapport de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéresse, c'est les rapports des gens avec moi et mes rapports avec eux. Mais si un monsieur, je ne sais pas, trompe pas sa femme, l'admire, ou... Moi, ça ne me touche pas, ces choses-là. Ce n'est pas mon affaire, du tout.
Quelle attitude aviez-vous envers lui? Quelle attitude avait-il envers vous?
C'était le père de famille dans toute... dans le parterre familial, vraiment. Et il s'intéressait énormément à nous, à nos études. Naturellement, il est mort trop tôt, parce que moi, à ce moment-là, je ne faisais pas encore d'études. Mais il s'intéressait beaucoup à ce que nous savions. Et aussi à ce qu'on appelait alors vous élever, vous meubler l'esprit, vous élever. Nous apprenions des quantités de choses par cœur, on nous faisait énormément de lectures. Et il était toujours très curieux de voir ce qui nous restait d'une lecture, d'ailleurs comme d'une promenade. Par exemple, je me rappelle qu'un jour il nous a dit, imagine-toi que tu te promènes dans le bois de Verrières et que tu trouves par terre une lampe à pétrole. Alors tu vas complètement oublier que tu sais ce que c'est. Tu vas complètement oublier. Tu te trouves devant un objet que tu vois pour la première fois et dont tu ne connais absolument pas l'usage. Comment décrirais-tu cet objet? Et comment dirais-tu? Et à quoi penserais-tu qu'il puisse servir? Eh bien, cet exercice d'oublier quelque chose que l'on connaît très bien pour, si l'on peut dire, l'imaginer dans un autre emploi. Qu'est-ce que ça peut être que cet objet? Tous les problèmes que ça présente nous passionnaient. Et lui aussi, en général, il nous trouvait idiots d'ailleurs.
Quel genre d'éducation receviez-vous, Louis? Est-ce que vous suiviez les cours normaux qu'une jeune fille de cet âge doit suivre?
Non, ça absolument pas. Je peux dire que j'ai jamais fait d'études, sous aucune forme. Où notre instruction religieuse était très poussée, tenait une très grande place dans notre vie. Et tout le monde était très pieux. Mais moi, je n'allais pas en classe. D'abord, j'ai appris à lire très très tard. J'étais ignare et considérée comme quelqu'un qui s'intéressait davantage à la nature qu'aux études. Et on nous lisait beaucoup.
Vous avez appris à lire vers quel âge?
Moi, vraiment, en approchant de ma 13e année, vers 12 ans.
Quel genre d'histoire est-ce qu'on vous racontait?
Il y a les grandes choses, c'était Ekman Chatrian, le conscrit de 1813. Naturellement, quand nous étions plus jeunes, le Tour de France par deux enfants. Naturellement, les livres de Paul Féval, La Fée des Grèves, Le Bossu, des choses comme ça. On nous lisait aussi les contes d'Andersen, les contes de Grimm, les contes de Perrault. Et puis alors naturellement des extraits, des Mille et Une Nuits, mais je suppose transformés à l'usage des enfants, mais toutes sortes de contes orientaux, beaucoup de choses fantastiques. Et alors énormément la mythologie. Ah, ça beaucoup. Et puis naturellement toutes sortes de choses de Fénelon, les discours de Bossuet. Alors tout ça, on nous lisait.
Et qu'est-ce qui vous passionnait à l'époque de vos 10 et 12 ans?
Alors, la folie des collections, ça, la folie, collectionner tout. Folie des collections et ma poupée. Ma poupée était ma passion, ma véritable passion. Plaire aussi, plaire. faire rire, dire des bêtises, être tout ce qu'il y a de plus fanfaron en parole et tout ce qu'il remonte de plus poltronne dans la réalité. Tout ça peut heureuse. Mais aimant toujours beaucoup faire des conquêtes, séduire, m'imaginant toujours dans des situations on ne peut plus en vue. Ah oui, ça alors, moi je rêvais toujours que j'étais absolument couverte de bijoux et une cantatrice ultra célèbre. J'étais sur la scène, c'est des applaudissements, me lançais des fleurs, des bouquets, je me pâmais. Enfin, c'est toujours être sur une scène et recueillir énormément d'applaudissements. Voilà, ça c'était mon idéal. Avec ça, je suis assez modeste, et ça qui est bizarre. Et encore maintenant, le temps est passé de tous ces rêves, hein. Eh bien, je me disais, je saurais très bien me débrouiller avec une grande gloire. Il me semblait que je mènerais ça admirablement. Oui, oui.
Quels ont été les incidents marquants de ce très jeune âge? Les moments les plus intéressants dont vous vous souvenez aujourd'hui, peut-être avec beaucoup d'indulgence, mais aussi avec beaucoup d'intérêt.
Il y a eu trois événements. L'un, c'est vers ma 10e année, mon père m'a emmené dans le Midi. Il avait un yacht assez grand qui s'appelait le Cariade, un yacht à voile. Il était un homme marin accompli. C'est toujours sur ce bateau qu'il passait ses vacances. Et alors il m'a emmené, c'était la première fois que j'allais dans un wagon-lit. J'étais grisée. Et puis il m'a emmené au wagon-restaurant. Nous étions à une table de quatre couverts, mais nous n'étions que trois à cette table, mon père et moi, et une dame inconnue. Et à la fin du dîner, mon père lui a demandé la permission d'allumer une cigarette, et elle a dit non, que la fumée la gênait. Et là-dessus, trois minutes plus tard, elle a sorti de son porte-cigarette un cigare. Et c'était une dame russe. Naturellement, mon père a engagé la conversation avec elle, elle était très belle et tout. Et ça m'a fait grande impression. Et j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça très audacieux et très bien. Ça m'a épaté. Et puis alors, le séjour sur le bateau, une certaine indépendance, papa me laissant manger à peu près ce que je voulais, et je ne mangeais que des œufs durs, de la salade de concombre et de la chartreuse verte coupée d'eau. Résultat, j'ai eu la jaunisse. Alors ça, c'était un événement aussi. Et puis, le second événement a été la disparition de ma poupée, que je vous raconterai un autre jour. Et puis, ça n'en finit pas. Et puis, alors, une vente de charité. Une année, il y a eu une vente de charité au ministère de la Marine. Tout le monde était très patriote à l'époque. Alors, nous étions habillés dans des petites robes de coton tricolore. Et nous avions des petits paniers pendus à nos cous, à part un ruban. Et nous vendions les uns des fleurs, des petits sacs de bonbons, des billets de loterie, de tombola, des choses comme ça. Et là-dessus est entré, à cette vente de charité, l'Agacan. Alors l'Agacan était très connu et dès qu'il est entré, on a entendu un murmure, « Oh l'Agacan, l'Agacan, l'Agacan !» Et toutes les petites filles l'ont entouré, toutes faisaient ronde au cercle autour de lui, chacune lui tendant quelque chose. Et là-dessus, Dieu sait pourquoi, vraiment, il m'a acheté un petit bouquet et il m'a donné 1000 francs des années 1918 ou 19. Ce qui était une somme énorme à cette époque-là. Moi, ivre de joie, c'était deux billets de 500 francs, du temps que les billets de 500 francs étaient seulement bleus, et comme ça, d'un bleu mauve avec le bord d'un côté découpé, comme si c'était découpé au ciseau, des grands billets. Alors moi, ivre de joie avec ces deux billets, je me jette au comptoir dont je dépendais, fier comme tout de montrer la recette que j'avais faite. Et vraiment, je le crois, vous savez, j'y ai pensé depuis, sur le moment, naturellement, je n'y pensais pas à ça, mais vraiment, ces 1000 francs de l'Agacan ont été, au départ, des jalousies que j'ai inspirées à des petites filles, et plus tard, ces mêmes petites filles, quand elles sont devenues des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 18 ans et plus, elles m'en ont voulu. Toujours, oh oui, naturellement, elle, il faut que, c'est pas comme tout le monde, elle croit que tout lui est permis, elle. La jalousie que j'ai inspirée aux femmes, et dont j'ai tellement souffert, il me semble que c'est dans cette vente de charité qu'elle est née. C'est ce cadeau, si on peut dire, de l'Agacan, qui a légitimé toutes les jalousies que, dans certains cas, j'ai inspirées. Sans le vouloir, parce que moi, j'aime qu'être aimée, alors j'aime pas être jalousée, moi, je déteste ça.
Mais vous avez senti brusquement que dans l'univers enfantin où vous étiez, les petites filles qui étaient vos amies, vous regardaient avec un œil de juge, en se demandant ce que vous alliez tenter désormais, pourquoi vous étiez préférée par le destin.
Oui, ça, il y a de ça, vous voyez, mais il faut dire que les petites filles, pour moi, ça n'existe pas beaucoup, parce que, comme aujourd'hui, j'ai jamais eu que une ou deux ou trois amies femmes. J'ai pas beaucoup d'amies. Vous comprenez? Alors, les autres, Voilà, comme tout le monde vous répète toujours tout, alors on me racontait les choses assez déplaisantes qu'on disait sur mon compte, et moi ça me navrait.
Vous avez parlé tout à l'heure de la perte de votre poupée. Je crois que c'est aussi un des événements qui vous a marqué. Vous pourriez nous raconter quand même cette histoire, Louise.
Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est seulement que là, comme toujours, j'ai imaginé ma vie, comprenez-vous ? J'ai toujours imaginé tout dans ma vie. Je me demande même souvent qu'est-ce qu'il y a de réel, et quand je me casse le nez sur un sentiment, eh bien c'est toujours parce que j'ai imaginé quelqu'un qui n'était pas du tout conforme à ce que j'en avais fait. J'imagine mon existence dans ma maison, partout. Si je mets telle fleur, telle vase, telle chose, telle lumière, c'est parce que ça contente une idée imaginative que j'ai des choses. Ce n'est jamais peut-être tout à fait dans la réalité, je ne sais pas. Alors bref, j'avais une poupée qui s'appelait Lily. Cette poupée était formidable, pas très grande, mais enfin comme ça, 50 cm disons. Vraie poupée, jointure de bois qui grince, petite main potelée, tout ça en bois. Hein. Et la figure en porcelaine, fermant les yeux, perruque formidable avec des longs cheveux de ma Fräulein. Nous avions une gouvernante allemande et ma poupée avait des longs cheveux de Fräulein qu'on pouvait natter, friser, tout. Quand je sortais, pour ne pas que ma poupée s'ennuie, je la mettais sur une chaise et je lui mettais un ouvrage à la main, fil, aiguille, petit ouvrage de broderie. Persuadée que, en mon absence, si elle en avait envie, elle broderait. Alors, un beau jour, je rentre, pas de poupée. On cherche poupée, c'est un affolement, où est passée poupée, où est passée Lily, c'est affreux. On demande, on cherche. On fait une enquête et on apprend que la femme de chambre de ma mère, qui s'appelait Francine, était montée dans le quartier des enfants, notre étage, où les grandes personnes ne montaient jamais, avait trouvé cette poupée un jour où ma mère recevait une de ses filleules, une petite fille qui s'appelait Mimi Bertrand, qui se trouvait être la fille de Madame Alphonse Allais, qui en seconde noce avait épousé Maurice Bertrand. Et maman était la marraine de cette petite fille, qui était venue la voir à l'improviste, et maman avait dit à sa femme de chambre, allez le voir chez les enfants, s'il n'y a pas un joujou que je pourrais lui donner. Et la femme de chambre était entrée dans la première chambre qui était la mienne, elle avait vu cette poupée, s'était emparée de la poupée, elle l'avait donnée à cette petite fille qui l'avait emportée. Bref, pour moi, c'est exactement comme la mort, c'est-à-dire la disparition, l'absence, avec tout le décor de la présence, toutes les petites choses, le petit linge, le petit mobilier, la petite armoire à glace, le petit lit et plus de poupée. Ça a été des sanglots effroyables, ça a tué en moi, vraiment, ça a tué mon cœur de mère. Après ça, je n'ai plus jamais aimé, ça a été un deuil, mais épouvantable, effroyable. Et après cet enfant si docile, qui ne disait que ce que je voulais, qui n'agissait que comme je voulais, Et qui pensais-je naturellement, m'aimait, m'adorait, et j'imaginais qu'elle souffrait sans moi, qu'elle pleurait, qu'elle était perdue, qu'elle trépignait. J'ai fait tout au monde pour la revoir. Pour la revoir. Cette petite fille partait pour Étretat. Bref, elle n'était pas là, on ne pouvait pas lui réclamer poupée. Après ça, elle est venue habiter chez nous. Et j'ai demandé à sa bonne si par hasard elle avait encore cette poupée. Et là-dessus, elle-même l'avait donnée au hasard d'une rencontre à une autre petite fille sur une plage. Et jamais plus j'ai retrouvé cet enfant perdu. Alors ça, c'était un événement tragique dans mon enfance. Ça peut paraître tout à fait idiot, vous savez.
Non, je crois que ça paraît surtout très vrai. Et que toutes les petites filles qui peuvent nous écouter en ce moment sentiront comme vous cette chose importante qu'est la mort d'une poupée.
C'est-à-dire, si on a de l'imagination, vous savez, alors naturellement, on sait ce que c'est que de souffrir. Hein. Si on n'a pas d'imagination, tous ces trucs-là paraissent tout. Ça paraît des chichis très plats. Ça paraît enfantin et bête. Parce que l'imagination, elle n'invente pas les chagrins, mais elle les ressent vivement, parce qu'elle est toujours près du cœur, non ?
Est-ce que vous avez l'impression, Louise, que votre imagination vous a plus aidé, plus enrichi, plus embelli la vie, que paralysé, gêné et aussi douloureusement meurtri.
L'imagination ne vous propose justement pas que des choses agréables. Elle va toujours plus loin que l'évidence. Alors, elle ne vous... que la réalité même. C'est une réalité dans une réalité. Mais je crois que tout en moi, tout, absolument tout, même l'apparence, même le physique, même tout est l'imagination. Absolument tout.
Mais vous prêtez toujours plus aux choses que vous ne découvrez ensuite, plus aux êtres qu'ils ne vous révèlent d'eux-mêmes.
Pas toujours. Il est arrivé que mon imagination m'emporte vraiment trop loin de la réalité. Ça, c'est vrai. Mais non, très souvent, au contraire, ce sont les gens qui éveillent mon imagination et d'une façon qui est tout à fait à leur avantage.
Est-ce qu'on vous a appris une chose qu'on apprend généralement aux gens des familles dont vous sortez, qui est le respect du nom et la valeur du nom qu'ils portent ?
Absolument. Nous étions très très fiers d'être les enfants d'un père qui avait cette belle maison de commerce sur le quai de la Mégisserie et ses établissements agricoles et horticoles à Verrières et dans toutes sortes de lieux en France. Alors le nom Villemorin pour nous c'était le nom de gens savants et de grands marchands. Voilà, nous trouvions ça admirable. Nous étions très très fiers. Il faut aussi, nous étions fiers, mais sans aucune vanité. J'avais la terreur d'être née ailleurs. Et quand nous passions le pont de Solferino et que moi j'avais un bâton, vous savez, à Cerceau, on jouait au Cerceau dans ce temps-là. Et alors nous passions, je passais toujours mon bâton sur les barreaux, en marchant sur les barreaux de là-bas du Strade, j'avais du pont de Solferino. Et alors ma nourrice, elle horripilait. Et souvent, en passant devant ce pont, pour peu qu'on n'ait pas été sage, elle me disait, eh ben, imagine-toi que tu sois né dans une autre famille, chez des pauvres gens comme il y en a, et tu habiterais là sous ce pont. Et l'idée qu'une chose comme ça aurait pu être, que je ne serais pas dans ma chambre, que je n'aurais pas toutes mes petites choses, me terrorisait. Et je croyais vraiment que si j'agissais mal, eh bien, ce malheur-là pouvait m'arriver. Que des bohémiens pourraient me voler, que certainement, il allait se passer quelque chose de dramatique si j'étais pas bonne.
Qui était cette nounou dont vous nous parlez?
C'était une femme épatante, tout ce qu'il y a d'épatant, qui s'appelait Mélanie Guilton, et que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui nous a élevés tous les six. Elle faisait collection de pièces de 5 sous, des pièces de 25 centimes, qui avaient un trou au milieu dans ce temps-là. Et alors elle les m'enfilait sur des bouts de ficelle, sur une ficelle. Et un beau jour, ma mère pensait que nous allions goûter chez des amis, qui s'appelait l'abbé Rodière, qui habitait près du parc Monceau. Et puis Nounou nous avait entraînés chez un de ses frères qui avait un café, à Biancourt. Et je me rappelle très très bien qu'elle lui a remis ses ficelles qui avaient sur lesquelles ses pièces de 25 centimes étaient enfilées. Et alors nous, pour nous faire passer le temps, c'était un beau jour de printemps, on nous a mis des tabliers, à mes deux frères aînés, mon frère Henri, mon frère Olivier, et à moi, eux des tabliers bleus, moi un tablier blanc, et nous servions les consommations dans le jardin. Ce qui nous amusait absolument à la folie, nous zigzaguions entre les tables avec toutes sortes de vins blancs en gomme et avec des bocs de bière et tout, on nous donnait des pourboires, on faisait rigoler tout le monde, ça faisait rire la clientèle de voir ces trois mômes là qui en pantalon court et moi en petite jupe là qui servaient les consommations. Puis alors la nuit est tombée et alors nous étions là sur l'avenue Biancourt et il y avait où passait un tramway électrique très très haut sur les rails. Il y avait plusieurs marches à gravir, un tramway noir qui faisait énormément de bruit, qui avait plusieurs wagons, qui était plutôt comme un train. Et alors, tous ces tramways, à cette heure-là, passaient complets. C'était rempli de gens qui rentraient à Paris. Et alors moi, quand ces tramways passaient, que c'était complet, alors je commençais à m'inquiéter, je me disais jamais on ne rentrera, c'est épouvantable, jamais je rentrerai chez moi. Et je voyais ma chambre, et je voyais ma poupée, et je voyais tout ça, et la douce lumière et tout, et j'étais dans cette avenue de Billancourt, alors je commençais à pleurer, j'avais peur, je faisais pipi dans le pantalon, et ma nourrice me collait une claque. Et mes frères se moquaient de moi, et moi j'avais froid au cul, ça me piquait, je me rappelle bien. Ouais.
Ce nom de Villemorin, Louise, quand vous a appris, qu'est-ce qu'il évoquait pour vous?
En ce qui est d'être snob, alors nous ne l'étions pas du tout. La famille de ma mère était une famille, je trouvais que ma mère avait fait une mésalliance en épousant un monsieur qui avait son nom sur une boutique, parce que ça se faisait pas du tout dans... Maintenant, tout le monde vend des trucs, hein, mais dans ce temps-là, c'était absolument pas chic, mais pas chic du tout, que d'avoir son nom sur une boutique. D'être commerçant, ça c'était pas bien. Alors, nous savions que la famille de ma mère considérait que notre famille Villemorin n'était pas chic du tout. Mais nous trouvions que nous avions davantage que les autres, justement parce que nous avions cette maison de commerce qu'on trouvait pas chic, mais que les autres avaient pas. Nous, on en était contents. Oui, pour vous dire, alors, on nous a élevés, notre abbé, un jour, nous racontait que Louis Veuillot, qui se trouvait dans un salon où il y avait toutes sortes de beaux mondes, et parmi ce beau monde, un monsieur titré, je ne sais quoi, vicomte ou duc ou autre, qui, comme ça, le regardait d'un peu haut, Louis Veuillot avait dit à ce monsieur: je monte d'un tonnelier, de qui descendez-vous? Eh ben voilà, nous, on monte de marchands de grains, Et on nous a dit qu'il fallait toujours monter, que c'était pas assez de s'appeler quelque chose, et puis de n'être rien et de croire que de s'appeler quelque chose, ça suffisait. Ça, ça marchait pas du tout dans la famille, alors. Ah non.
Monsieur, mon passé, voulez-vous passer ? J'ai comme une envie d'oublier ma vie. Si j'avais à faire ma vie à l'envers, c'est vous, mon passé, qui me verriez repasser.
La radiodiffusion Télévision Française vient de vous présenter une émission d'André Parineau, Monsieur mon passé, avec Louise de Villemorin. Assistant Georges Arnal, réalisation Jean-Jacques Vierne.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 23 septembre 1957.